Eh bien, ça donne ça. C'est le bruit d'une ville. Nous sommes à Bata, en Guinée équatoriale. 800 000 habitants, Amélie Perrier, privée d'eau courante.
Oui, la Guinée équatoriale, pour vous resituer, c'est un tout petit état en Afrique centrale coincé entre le Gabon et le Cameroun. Et si l'on en parle, c'est plus souvent pour les frasques de ses dirigeants.
C'est à la fois la fin d'une culture d'impunité, même s'il y a encore des obstacles. Et puis ça marque aussi la fin d'une espèce de culture de résignation et de fatalisme dans laquelle était une partie des opinions publiques africaines en disant on ne pourra jamais s'en défaire. Donc de ce point de vue-là, oui, c'est une étape importante.
Alors ici, c'est William Bourdon, l'avocat de l'ONG Transparency International, partie civile au procès des biens mal acquis en France. Teodoro Obiang, le président de Guinée équatoriale, au pouvoir depuis 40 ans, est soupçonné avec son fils d'avoir constitué sa fortune, ses immeubles et ses biens de luxe acquis en France, avec de l'argent public détourné de Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, c'est un pays très riche sur le papier, l'un des plus hauts niveaux de richesse du continent africain, avec un PIB par habitant de plus de 21 000 dollars, mais en réalité, l'argent du pétrole ne profite qu'à une minorité qui souvent le détourne pour des projets personnels, surtout en Europe, plutôt que dans le système de santé ou d'éducation. La population en majorité vit dans la plus grande précarité. Le pays fait partie des plus corrompus au monde, disent les ONG. Pas étonnant donc que les services les plus basiques, comme la distribution d'eau potable, déraillent depuis plus de 3 semaines.
En Syrie, c'est la guerre qui ravage le pays depuis 2011. L'économie, elle, aujourd'hui est au plus bas.
La monnaie syrienne vient d'atteindre son plus bas historique par rapport au dollar sur le marché noir. Et loin de la macroéconomie, les commerçants et les clients en souffrent au quotidien. Écoutez ici au micro de l'AFP ce marchand dans le vieux Damas, la capitale. La valeur du dollar ne cesse de grimper chaque jour, nous dit-il. Elle passe de 20 à 30 livres syriennes, puis 40 livres syriennes. Les prix évoluent d'une heure à l'autre. Ça veut dire que le client qui a acheté quelque chose hier, il va devoir le payer plus cher aujourd'hui. Car les commerçants importent beaucoup de produits à Damas et les achètent en dollars. Quand ils les revendent, c'est en livres syriennes. Ce qu'ils ont acheté 1 dollar, ils doivent les revendre 500, puis 550, puis 600 livres syrienne au fil des jours. Des fluctuations totalement folles. Le conflit en 8 ans a asséché les réserves de l'État en devises étrangères et fait chuter les revenus. Le pouvoir n'a plus la main sur tout le pétrole du pays. Et la situation s'est encore aggravée avec les sanctions des États-Unis et de l'Union européenne. Aujourd'hui, les Syriens ont de plus en plus de mal à faire leurs courses.
La Colombie, enfin, Amélie, se passionne pour un trésor caché dans une épave du XVIIIe siècle.
Une épave de plus de 35 mètres de long, le galion San José, coulé en juin 1708 par la flotte britannique. Il repose désormais, ce navire, à plus de 600 mètres de profondeur dans les eaux colombiennes. On pense qu'il transportait des poteries chinoises de la dynastie Qing, près de 200 tonnes d'or en pièces et en lingots, un trésor estimé en tout à 1 milliard de dollars. Mais à qui appartient ce butin? Aujourd'hui, le gouvernement repousse encore de 3 mois l'attribution à une société privée des travaux pour sortir les vestiges. L'exécutif a des doutes juridiques. Déjà l'an dernier, le président Juan Manuel Santos stoppait tout.
Por respeto a las instancias judiciales.
Par respect pour les instances judiciaires, dit le chef de l'État, et par respect des règles de droit, cela a toujours été un principe dans mon gouvernement. Je suspends le processus en cours. Et son successeur, Ivan Duque, fait exactement la même chose aujourd'hui. La question, en fait, est loin d'être seulement archéologique, elle est aussi judiciaire et donc diplomatique. L'Espagne accepte, en fait, de renoncer à ses droits sur son ancien galion si, seulement si, un musée est bâti pour accueillir le trésor. Des sociétés privées, dont une américaine ou encore un consortium international mené par un historien cubain, réclament eux aussi leur part du trésor ou une indemnisation équivalente, car ils affirment avoir fourni les coordonnées exactes de l'épave à la Colombie. Vous comprenez l'imbroglio juridique. En attendant, un trésor repose à 600 mètres de fond.
Voilà, un trésor qui est là depuis
1708.
Bah, peut attendre encore un
peu.
Cela dit, allons-y, Amélie, mettons nos palmes. Allons-y nous-mêmes. Merci beaucoup et à demain.
À demain.
La suite.